Et j'ai le plaisir maintenant de recevoir Georges Bonfils, que tout le monde connaît sur CFM. Salut Georges.
Bonsoir les amis.
Alors là, il n'est pas en qualité de fin gourmet ni de spécialiste jazz de l'émission Qu'est-ce qu'on déguste, mais plutôt d'artisan du festival Bleu Trompette, puisque si j'ai bien compris, hein, sur le festival Bleu Trompette qui se situe à Montpezat-Quercy en Tarn-et-Garonne, eh bien Georges Bonfils fait un petit peu tout, le son, la contrebasse, la programmation.
La programmation aussi, voilà, tout, oui. Sauf la publicité, ouais. Parce qu'il y a un artiste qui s'appelle Bernard Perronne qui est venu d'ailleurs à CFM expliquer ses photos et ses,
pas
ses
photos, dessins,
ses dessins,
les fameux réductions,
les réductions de,
voilà, qu'on peut voir
de Montpezat,
qu'on peut voir pendant tout l'été à Montpezat Quercy. Voilà. Ce sont des personnages peints avec des têtes de cochons, ils sont tous bleus.
Oui, tous les métiers du village de Montpezat, ça va du maire au curé en passant par le facteur. C'est très très amusant et très joli.
Alors, à l'occasion de ce festival Bleu Trompette, donc on a le plaisir de pouvoir recevoir aujourd'hui le célèbre trompettiste de jazz Alain Boucher. Bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va?
Très bien.
Ouais.
Bah, quand je suis à Montauban, moi tout va bien.
Vous êtes venu assez souvent à Montauban.
Très souvent. Ouais. Très souvent. C'est pour ça que je suis ami avec l'espèce de Librius en face de moi, Georges Bonfils. Notre rencontre avait mal commencé.
C'est vrai.
On s'était engueulé.
Ah oui.
Oui, oui, mais bon.
Racontez.
Non, c'est parce que ils m'avaient programmé à Montauban et ils m'ont fait passer après minuit. Et on sait très bien que les soirées montalbanaises peuvent être quelquefois glaciales. Et même en mois de juillet, il faisait très froid. Il y avait un orchestre qui passait avant, qui devait passer une demi-heure. Il a joué une heure et demie.
Aïe.
La moitié des gens s'étaient tout simplement tirés. Et tout le monde se caillait. Donc j'ai joué même pas une demi-heure. Puis j'ai dit, on arrête tellement on a les doigts gelés, les guitaristes pouvaient plus jouer. Donc ça s'était assez mal passé. Et puis le grand patron du festival a dit bah, « je veux plus voir ce mec ici ». Voilà.
Et puis l'année d'après, j'ai reprogrammé dans de meilleures conditions. Ouais. Et chaque année, je lui ai proposé de venir, carte blanche. Tu viens avec un musicien, donc tu as pu l'occasion de venir avec Scott Hamilton.
Et Warren Vacher avec Jim Galloway. Enfin, plein de musiciens américains, Bob Wilbur, enfin, musicien américain ami qui était de passage ou en France ou en Angleterre, donc je les faisais venir et puis voilà.
Et un concert particulier avec trompette spectaculaire où vous étiez cinq trompettes sur scène.
Et si on refait tout le programme de 15 ans, là, ça va pas faire une émission. Ça,
mais vous êtes venu aussi, du coup, sur le festival Bleu Trompette. Hein, c'est là où on voit que c'est une amitié qui dure entre Georges Bonfils et vous. Et vous y serez encore un petit peu cette année, même si vous n'êtes pas dans la programmation, mais vous allez monter sur scène, je crois que c'est vendredi, avec Marc Laferrière, hein, c'est ça?
Oui, parce que dans le jazz, il y a une vieille tradition qui est tout simplement ce qu'on appelle la jam session, c'était le bœuf en français. C'est-à-dire que Marc étant un ami, et ben voilà, je vais arriver avec ma petite trompette et puis je vais taper le bœuf avec les copains.
Alors, ça se fait. Votre petite trompette, on va en parler, si vous voulez bien, Alain Boucher. Mais d'abord, je vous propose juste, pour lancer notre conversation, on va un peu repasser l'histoire de votre vie dans un instant. Ça va, ça vous fait pas peur?
Non, mais c'est, il y a 50 ans de métier derrière, ça va être long.
Hein. Ah, bah, écoutez, on va essayer de.
Non, mais je vais abréger.
On va faire des moments clés, vous allez voir.
Oui, oui, absolument.
When You're Smiling, c'est le titre 1 d'un album qui s'appelle En Sourdine, sur lequel il y a vous, évidemment, Alain Boucher, mais aussi Bernard Lara, Thierry Olé, un certain Georges Bonfils
et
Christian Bonnet. Thank you. Smiling, titre 1 de cet album en sourdine qui en compte 14, dites donc.
Oui, ça avait été enregistré en une journée et justement tout le monde n'était pas arrivé, on avait commencé les réglages et ce morceau là, When You're Smiling, était fait,
si, c'est When You're Smiling. C'est bien,
a été enregistré en trio, il y a juste le piano, la contrebasse et la trompette bouchée d'Alain.
Pas du genre, ça. On l'avait jamais entendu. Ah non, ça, tu vois, en 50 ans, c'est la première fois que j'entends ça.
Alain Boucher, notre invité aujourd'hui sur CFM Radio, célèbre trompettiste. Vous avez joué avec les plus grands, vous avez eu des prix, vous avez...
J'ai eu cette chance de jouer avec beaucoup de grands musiciens. Bah, le premier, c'est un certain Claude Luther, que j'ai rencontré au cours d'un concert en 1965. J'étais dans un orchestre amateur et nous jouions en alternance, l'orchestre Luther et nous. Et à la fin de la soirée, il est venu me voir, il m'a dit « Tu sais où je joue ?» Je lui ai dit « Non ». Il m'a dit « Je joue au Slow Club, rue de Rivoli, passe me voir ». J'en revenais pas. Et puis, au bout d'un mois, il y a un ami qui m'a dit « Dis donc, tu sais que Luther t'attend pour jouer ?» Je lui ai dit « Oh, tu... C'est des blagues. Non, non, mais tu te l'as dit. Alors j'y suis allé. Et quand je suis arrivé à l'entrée de ce club, lui, et c'était la pause, et Luther était juste en face de moi, il s'est levé, il m'est venu me voir. J'en revenais pas. Monsieur Luther, Claude, qui se lève, non pas devant Danette, mais devant Alain Boucher, ce petit musicien amateur. Et bien sûr, il m'a dit, t'as amené ton biniou. Et je lui ai dit non. Et le copain qui m'accompagnait m'a dit, hey, menteur, il est dans le coffre de la voiture. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à côté de Claude à jouer au Slow Club.
D'accord.
Et depuis ce jour, ça...
C'est comme ça que ça a c'est démarré ça, pour ça, vous, la carrière ça, de trompettiste jazz.
Oui, mais c'était dans mes intentions, mais voilà.
Justement, avant ça, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu votre intention? Et c'est déjà le choix de cet instrument, la trompette. On est quand, là? On est dans les débuts des années 60
les années 50.
Dans les années 50.
C'est en 1944, donc... En 56, j'ai 12 ans, j'écoute la radio, il n'y avait pas encore de tous les médias qu'il y a actuellement. Donc, j'écoutais beaucoup la radio, et on entendait qui à la radio? Quand j'avais 10, 12 ans, on entendait Sidney Bechet. Et c'est comme ça que moi je suis né dans une famille de musiciens classiques, et ça m'emmerdait prodigieusement. Non pas la musique, mais enfin...
Qui c'est qui faisait du classique dans votre famille?
Mon père et ma mère. Ouais. Et mon père était flûtiste, ma mère pianiste. Et moi, j'ai cette espèce de réaction normale d'un ado qui va à l'encontre de ce que les parents font.
Faire du jazz à cette époque-là, c'était déjà être un peu punk, hein, quand même. Hein.
Oh non.
Non, mais c'était l'époque
rock'n'roll.
Oui, rock'n'roll.
Ouais, c'est ça, j'étais un rock'n'roll. Mais d'ailleurs, c'était l'époque du rock'n'roll. C'était Elvis, c'était Eddie Cochran, c'était enfin tout les...
Buddy Holly.
Ben ouais, tout ça. Bon, on peut tous les citer, il y en a un paquet. Mais moi, c'était le jazz et je savais pas ce que c'était trop que le jazz. Simplement, je savais que c'était une musique rythmée qui donnait envie de danser et de taper du pied. Donc voilà, Sidney Bechet. Et puis...
Et puis la trompette.
C'est la trompette.
Non, mais quand vous dites à vos parents qui, eux, justement, sont classiques, tout ça, moi, je veux faire de la trompette, il n'y a pas beaucoup de trompettes dans le classique.
Non, l'histoire, on a un peu de temps ou pas?
Un petit peu.
Parce que, en fait, mes parents, je jouais, j'ai appris le piano, et un jour, j'ai refermé le couvercle, parce que pendant que je faisais mes gammes, mes petits camarades jouaient dans la cour, jouaient aux billes, jouaient aux petites autos, et moi, j'étais là en train de faire les... Ça m'ennuyait prodigieusement. Et donc, j'avais arrêté de faire, j'en avais fait 3 ans et j'ai arrêté de faire du piano. Et je le regrette maintenant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et un jour, mon père à table me dit, mais enfin, c'est quand même malheureux qu'on ait un fils, enfin, même deux, mais l'autre a été un peu plus jeune, donc il n'était pas encore en cause. Soyons musiciens et que tu ne fasses pas de musique. Et j'ai dit simplement, bon, bah, je vais jouer de la trompette. Mais j'ai dit, la trompette, comme j'aurais dit, du tambour. C'est pareil. Et puis finalement, j'ai dit, tiens, la trompette, c'est pas mal, la trompette.
Parce qu'à l'époque,
j'avais 12, 13 ans.
Ouais, 12, 13 ans.
Voilà, et c'est parti de là, et mes parents, qui étaient quand même pas obtus, m'ont emmené voir un grand trompettiste à l'Alhambra, Maurice Chevalier à Paris. Un trompettiste qui s'appelait Eric James. Et de ce jour, j'ai dit, oui, c'est bien ça que je veux faire.
Ouais. Un trompettiste amené voir un trompettiste de jazz.
Voilà.
S'ils auraient pu.
Non, parce que mes proches étaient des gens, enfin, sont toujours là, sont des gens intelligents. Donc, ils m'ont emmené à mon premier concert de jazz.
Ouais.
Et j'ai dit voilà. Et mon père m'a dit, tu vois, mais il faut travailler beaucoup pour
arriver là. Mais alors, justement, parce que ça, c'est de l'envie à la concrétisation, il faut le maîtriser, l'instrument. Je pense qu'on passe par des phases, peut-être à des moments de découragement, parce qu'il faut travailler, faire ses gammes. Ça a été compliqué, ça, au début?
Non, parce que je suis, comme tous les gens, très paresseux. Je ne décourage jamais. C'est-à-dire que... Le malheur, si vous voulez, c'est quand on est doué pour quelque chose, tout vous paraît facile. Et puis, vous jouez en parallèle avec des copains, par exemple. Et vous apercevez que ces copains, qui sont un peu moins doués, progressent davantage. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent. Et vous, comme c'est facile, vous reposez sur vos lauriers. C'est... excusez-moi.
Téléphone.
Voilà. Oh, excusez. Oh, ça, vraiment, je suis désolé. Alors, bon... Donc, disais-je...
Eux, ils se reposent... Voilà. Vous reposez sur vos lauriers et eux, ils progressent.
Voilà, ils progressent. Et quand vous apercevez qu'ils ont pris une bonne longueur, eh ben, vous dites, ben là, il faut que je travaille. Donc, ça a été un petit peu la course au début. Après, j'ai compris qu'il fallait que je travaille de toute façon. Donc, j'ai pris des cours, je suis allé dans un conservatoire. Je n'ai pas fait le conservatoire national, bien sûr. Mais enfin, bon. Et puis, on apprend. Le jazz, ça, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas d'école. Donc, ça s'apprend sur le tas. Ça s'apprend.
Il faut être à Paris, c'est dans les caves que ça s'apprend?
Ça s'apprend au lycée avec des copains de lycée. On rencontre, on était des quelques passionnés de jazz, on écoutait Louis Armstrong, on écoutait Sidney Bechet, on écoutait, évidemment, ce téléphone, j'aurais dû l'éteindre. Bref, on écoutait du jazz, on se cotisait pour acheter un disque de Maxime Sori, je me souviens, dans les années 50. Les rendez-vous au caveau de la Huchette. D'ailleurs, si un jour, quand j'ai acheté les disques de Maxime Sori, où j'avais 14 ans, on m'avait dit qu'un jour je jouerais avec cet homme pendant 25 ans, j'aurais jamais voulu le croire.
Ouais.
Donc, voilà.
Et c'est vrai que c'est... Alors, vous êtes arrivé aussi à l'époque où le jazz, c'est on va dire comme aujourd'hui Kenji Girac, quoi. C'était ce qui faisait c'était numéro un des ventes, ça marchait, quoi, le jazz.
Oui, parce que Sidney Bechet avait donc écrit des chansons, enfin des morceaux comme Petite Fleur, Les Rues d'Antibes, Les Oignons, et c'était les tubes de l'époque.
Ouais,
c'était les tubes de l'époque, et puis voilà. Mais le jazz n'a jamais été véritablement à la mode, mais n'est jamais passé de mode non plus.
Mais il y avait une ébullition quand même à Paris à ce moment-là.
Ah oui, parce que quand vous pensez qu'à l'Olympia, le premier qui a fait casser c'est Sidney Bechet qui a fait casser les fauteuils de l'Olympia.
On dit Gilbert Bécaud, mais bon.
Non, c'est après. Bécaud a fait casser les fauteuils de l'Olympia après Bechet. Le premier qui a fait saccager l'Olympia, c'est Sidney Bechet.
Ouais.
Et non pas à cause de la musique. Mais parce que les mecs pouvaient pas rentrer au concert et qu'ils ont tout cassé. Voilà.
Vous avez l'impression d'avoir fait justement 50 ans de carrière là, fait partie justement de quelque chose qui d'un courant musical qui a traversé comme ça 50 ans d'histoire avec des hauts, des bas.
Ça serait prétentieux de ma part de dire que. Disons que je vais modestement marquer d'une pierre blanche l'histoire du jazz français, comme beaucoup d'autres musiciens français.
Tu es dans les dictionnaires du jazz français.
Je suis dans les dictionnaires du jazz français, dans les dictionnaires du jazz anglais, américain. Oui, ben voilà. Bon, mais
ça fait plaisir.
Oui, c'est mieux qu'un coup de pied aux fesses. Mais voilà.
Vous êtes essayé à d'autres musiques ?
Non, parce que je crois que dans la vie, c'est pas seulement en musique, mais on ne fait bien que ce que l'on aime.
allé au bout. J'ai parlé sur la trompette d'Alain Boucher. Ah bah,
ouais, c'est pas bien grave.
C'est un truc habituel chez Rémi. Il parle sur le jazz.
Mais oui, mais les musiciens de jazz parlent, jouent pendant qu'on mange. Ça vous agace pas, ça? C'est souvent le cas. Hein. Il y a toujours. Alors, à part dans les grands festivals aujourd'hui où on va s'asseoir et cérémonieusement on écoute les musiciens de jazz, mais il y a aussi toute une partie des musiciens de jazz qu'on va écouter en mangeant avec les bruits de fourchettes, les bruits de verre, etc., etc.
Ouais, le jazz fait partie de la vie, je ne veux pas dire de tous les jours, mais on peut très bien. Moi, nous avons joué dans. Que ça soit avec Marc Laferrière, avec Maxime Sory, avec Luther, avec d'autres gens. Dans des restaurants, dans des animations, voilà.
Bon, à l'origine, c'était quand même une musique. C'était une musique. Trouvait dans les barrels house qui étaient les maisons close.
Ouais. Voilà. Bah, c'était des bordels tout simplement. Et puis voilà. Et musique dans la, qui se jouait dans la rue, sur des charrettes, etc. Donc les gens parlaient, les gens s'amusaient, les gens dansaient.
Alain Boucher est notre invité aujourd'hui sur CFM Radio, trompettiste de jazz. La trompette, qui était pas tombée en désuétude un petit peu, mais en tout cas au niveau du grand public, n'a pas été sur le devant de la scène depuis quelques années, sauf depuis peut-être là Ibrahim Malouf qui remet ça avec sa trompette un peu particulière puisqu'elle joue aussi dans des quarts de ton. Est-ce que des trompettistes d'aujourd'hui, vous les écoutez? Est-ce que vous trouvez justement qu'une espèce de souffle nouveau est amené par ces musiciens-là?
Oui, alors j'écoute, bien sûr que j'écoute mes camarades.
Je pense que c'est Eric Truffaz aussi, hein, je crois, le trompettiste.
Oui, il y en a plein. Ouais. Mais c'est, les musiques qu'ils jouent me passent un petit peu au-dessus de la tête parce que c'est pas des musiques qui m'intéressent véritablement. Mais ce sont tous de merveilleux musiciens, des techniciens hors pair, c'est bien évident, mais j'ai pas grand-chose à dire. Ouais. Cette musique ne me touche pas, c'est véritablement. Mais enfin,
qu'est-ce qui fait qu'une musique vous touche, alors que par exemple le jazz que vous jouez, c'est quoi? C'est le jazz des puristes, on va
non,
dire
Non, et puis, ça, les puristes, c'est... moi, ils m'énervent. Non, c'est pas ça, c'est... Vous savez, vous regardez un tableau, vous regardez une jolie fille, vous regardez, vous écoutez de la musique, ça vous fait quelque chose ou pas? Quand je vais visiter une exposition, moi qui suis pas très peinture, et quelquefois je tombe devant un tableau, je dis oh, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, mais c'est une question de sentiment, de vous êtes touché, voilà, mais il n'y a rien à expliquer.
Vous êtes un interprète, oui. Alain Boucher. Est-ce que vous êtes essayé à la composition, à l'écriture?
Alors, je vais vous répondre. Je vais vous faire la réponse d'un grand musicien qui s'appelait Stan Getz et à qui on posait exactement la même question. Et il a dit ceci. Pourquoi voudriez-vous que je fasse de mauvaises compositions ou de piètre composition, alors que je n'aurais pas assez d'une vie pour jouer tout ce qu'ont écrit George Gershwin, Carmichael, Erwin Berlin et compagnie. Donc je vous réponds la même chose, j'ai écrit, ça me fait marrer à chaque fois que je dis ça, des petits trucs pour la SACEM, parce que ça fait des droits d'auteur. Vous savez, quand on sort un disque, on met deux, trois morceaux à signer, on touche des droits, ça c'est bien. Mais sincèrement, sur le plan de la composition, c'est même pas, on peut même pas en parler.
N'en parlons pas.
C'est tout.
Aujourd'hui, votre activité musicale, c'est quoi aujourd'hui?
Ah ben, c'est surtout chez moi.
Ouais.
Non, c'est-à-dire que voilà, je vais être très honnête, après avoir vécu 50 ans, une vie merveilleuse, passer dans les avions, les trains, les hôtels, avoir bourlingué dans le monde entier, aux États-Unis, au Canada, dans l'Afrique, dans toutes les îles, les belles îles comme Tahiti, la Réunion, les Antilles, l'Asie, l'Amérique du Sud, enfin bref, j'ai envie de poser un peu mes goals et de
mes valises. Il a enregistré un disque aux États-Unis.
Oui. Oui, il y a beaucoup de musiciens qui ont enregistré aux États-Unis, mais peu importe. Alors, Le métier a terriblement changé. Il y a plus beaucoup de travail. Les musiciens actuels, les jeunes musiciens pleins de talent, peu importe là, le style de musique qu'ils fassent, sont obligés de tous pratiquement enseigner la musique pour pouvoir vivre. Mais de faire comme nous faisions les Luther, les Sory, la Ferrière, Lafitte, Bouchet et compagnie, faire que du jazz, c'est pratiquement impossible. Ouais. Il faut faire autre chose maintenant pour pouvoir manger.
Merci Alain Boucher d'être passé dans les studios de CFM Radio à l'occasion de cette jam session de vendredi avec Marc Laferrière.
Oui, bien sûr. Je vous remercie, c'était très sympa.
Et donc cette jam session vendredi soir, ça se passe à Montbezat-Quercy dans le cadre du festival Bleu Trompette. Le programme, Georges.
Alors ce soir, nous sommes jeudi. Ce soir, il y a un marché gourmand. L'animation ne sera pas tout à fait du jazz. Ça sera de la musique chantée par le duo Los Dos, qui sont montalbanais. Il y a Myriam à la voix et Luc à la guitare. Ils chantent des chansons un peu françaises, espagnoles, de variété. Mais ils ont beaucoup la pêche et Luc est un très bon guitariste. Vendredi, donc, il y a Marc Laferrière avec Jean-Marc Monteau au piano, qui est le pianiste montalbanais, qui est musicien professionnel. Ensuite, samedi, il y aura un trompettiste. Quand même, il y a toujours dans le programme Bleu Trompette un trompettiste. Et là, c'est Jacques Adamo qui fera un hommage à un des plus célèbres trompettistes jazz américains qui s'appelait Chet Baker, qui a un son très particulier et avait un timbre de voix aussi particulier. Et Jacques Adamo a réussi à rentrer dans cette musique et nous rappeler le plus favorablement Chet Baker.
Et ben voilà pour le programme de ce festival. www.bleutrompette.fr, ça se passe à Montbezat-Quercy en Tarn-et-Garonne.
J'ai oublié juste une chose, c'est que les spectacles sont gratuits.
Et ben voilà, tout est dit. Merci encore une fois Alain Boucher.
Mais c'est moi qui vous remercie, j'étais ravi de passer un moment dans votre charmante radio.